Figures de style, ce sont certaines formes de langage qui donnent au discours plus de grâce et de vivacité, d'éclat, d'énergie. En juillet 1966, ce pantalon droit et court, associé à une femme, c'est un genre d'oxymore, deux choses qui s'opposent, une figure de style. Saint Laurent a 30 ans et dans la collection pop et colorée qu'il présente ce jour-là, son ensemble en grains de poudre noire fait dans le contraste, c'est le moins qu'on puisse dire. La veste à quatre poches, une sorte d'emblème de l'élégance masculine, une métonymie même. La partie pour le tout, la veste pour le smoking, pour le chic, pour le pouvoir. Alors on compare, on personnifie aussi ce vêtement culotté. Figure de style, on pense par analogie à Marlène Dietrich déguisée, à George Sand dans des volutes de fumée ou au dandy Dorian Gray. Étrange mélange des genres, l'architecture de la silhouette étroite et élancée épouse les courbes féminines. Mais rien n'est perdu de la sensualité. À l'époque, quand même, ça fait dissonance, figure de style. Mais en quelques mois, cette veste et ce pantalon agrémenté d'une chemise d'organdie blanche, lavalière noire, haute ceinture de satin deviendront métaphore puis allégorie de la femme chic et libérée. Pour la somme abordable de 680 francs, le complet smoking sera décliné près de 230 fois. Répétition. Il sera surtout, disait le créateur, un vêtement de style et non un vêtement de mode. Une figure de style.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est-il du côté du style? À la tête de la maison Saint-Laurent depuis 3 ans, il en perpétue l'héritage tout en exacerbant l'érotisme et la sensualité. Avant-hier, dans une ambiance crépusculaire face à la Tour Eiffel, il présentait sa collection de prêt-à-porter printemps-été 2020, des lignes, du noir, des jambes, des bottes, de l'or, des strass, de la lumière. Bonjour Anthony Vaccarello.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Tout d'abord, cette phrase d'Yves Saint-Laurent, la mode passe, le style reste. Qu'est-ce que ça vous inspire, à vous?
Mais c'est vraiment, c'est très Saint-Laurent comme phrase, enfin, c'est tellement juste. Ouais, tout est dit.
Ça veut dire quoi, être du côté du style?
C'est être du côté de quelque chose d'intemporel, plus que de consommation, de quelque chose qui passe et de quelque chose qui n'a pas vraiment de sens. D'être du côté du style, c'est quelque chose de permanent.
L'une des pièces maîtresses du vestiaire Saint-Laurent qui a fait son style, c'est évidemment la veste de smoking pour femme que vous revisitez dans cette collection. Cette veste de smoking iconique, qu'est-ce qu'elle incarne pour vous?
Elle incarne une sorte d'assurance, une sorte de j'aime pas dire pouvoir, parce qu'en fait, en disant pouvoir, il y a un côté lutte et un côté forcément on a l'ascendant sur quelqu'un d'autre. C'est vraiment pas ça. Pour moi, la veste smoking, c'est quelque chose qui donne confiance en soi, qui structure la silhouette et qui donne envie d'aller de l'avant.
Une forme de liberté.
Une forme
aussi
de liberté.
Ouais. À vous entendre, c'est un vêtement pour vous qui est capable, pour autant, de donner. Du pouvoir, puisque c'est pour ça, c'est comme ça qu'Yves Saint-Laurent l'avait pensé au départ, pour donner effectivement le pouvoir aux femmes, en leur offrant un costume d'homme.
Ouais, mais j'ai toujours pas un problème avec le pouvoir, mais je pense pas que la femme ait besoin de pouvoir maintenant. Enfin, elle a besoin d'être reconnue, elle a besoin d'avoir confiance en soi, mais l'idée du pouvoir, il y a quelque chose d'une lutte que j'aime, que je suis pas très à l'aise.
Vous n'aimez pas la domination?
Non.
Pour en revenir à cette veste de smoking, qu'est-ce qui en fait la beauté pour vous?
Ben, la perfection des lignes. Je trouve qu'une veste de smoking, c'est beau quand c'est vraiment très 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 sharp, très 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 construit, très dessiné.
Son architecture, en fait, c'est intéressant. En quoi votre vision du vêtement est-elle presque essentiellement architecturale, Anthony Vaccarello?
Parce que je fais tout sur le corps humain directement, un peu comme Saint Laurent, tout part de l'épaule. Donc c'est une espèce d'architecture assez linéaire, assez structurée. Voilà, je fonctionne pas en termes de dessin en 2D. J'ai besoin de toucher, j'ai vraiment besoin de travailler avec des ateliers pour que les choses prennent vie.
Alors le choix des matières, je suppose, rentre en ligne de compte, est extrêmement important. Pour vos vestes de smoking, quelle matière est-ce que vous avez sélectionnée?
C'est toujours des grains de poudre, de matière très très classique, des grains de poudre ou des gabardines. Et pour le choix, j'ai vraiment voulu les embellir et que tout soit rebrodé. Donc c'est toujours une base de grains de poudre, mais brodé.
Il faut nous expliquer ce que c'est. Hein.
C'est un lainage qu'on utilise pour les vestes, mais elle a un grain particulier. C'est pas plat, c'est légèrement en relief. Je travaille beaucoup avec ça.
Qu'est-ce que vous appelleriez une belle matière, vous?
Une matière naturelle, une matière sèche, une matière quelque chose de noir.
Votre matière fétiche, ça serait quoi alors ?
J'aime beaucoup le grain de poudre.
Et alors pour quelle raison ?
Parce que, bon, déjà, c'est une matière qui était chère à Yves Saint-Laurent.
Et elle se prête au noir particulièrement ?
Ouais. Ah oui, qu'au noir, ouais.
On dit souvent que la mode est un éternel recommencement. Anthony Vaccarello, comment on fait pour ne jamais se répéter ?
Alors moi, j'aime bien me répéter. Bizarrement, j'aime beaucoup... j'aime pas l'idée de démoder un vestiaire saison après saison. J'aime bien l'idée de pouvoir remettre des choses de l'année précédente, même d'il y a 5 ans, et de pas paraître ringard, que tout puisse se mixer continuellement. Je trouve que c'est là le style.
Par exemple, pour la veste de smoking femme, vous la revisitez quand même cette saison, mais qu'est-ce que vous gardez ?
Je ne revisite pas tant que ça, finalement. Il y en avait plusieurs, il y a plusieurs carrures, il y a plusieurs longueurs de manches, mais finalement, celle que je préfère, c'est toujours celle qui est très structurée, avec la manche toujours un petit peu plus courte. Mais on ne peut pas réinventer une veste smoking.
En particulier une veste de smoking Saint-Laurent.
Exactement.
À travers la manière que vous avez de l'associer avec des shorts très courts, quand même, voire des micro-shorts, jamais trop courts, Anthony Vaccarello.
Non, jamais trop court. Parce que je trouve que le court, c'est cette liberté que je veux donner à la femme. C'est ce côté, c'est limite sportif, je trouve, une jambe. Le fait que ce soit court, ça laisse plus le c'est plus dynamique, c'est moins enfermé.
Vous trouvez qu'on cache trop aujourd'hui ?
Je trouve, ouais. Je trouve qu'il y a un retour, un pas en arrière, il y a ce côté où on cache le corps c'est...
Les jambes,
les seins, on peut plus rien montrer, maintenant.
Bah vous montrez, vous ?
Moi je montre, elle m'en fout.
Qu'est-ce que ça dit du monde d'aujourd'hui, le fait qu'on puisse moins montrer ?
Ben je sais pas, ça dit qu'on a peur, ça dit qu'on a peur surtout.
Puis les nuances aussi, je me disais, que ça manque de nuances. Vous avez l'impression que, depuis votre entrée chez Saint-Laurent, vous travaillez à un art de la nuance, vous ?
Non. Non, parce qu'en fait, j'aime bien aller à l'opposé de... Parce que souvent, la nuance, on l'aperçoit pas souvent. On l'aperçoit pas toujours. Il faut toujours être un peu plus lourd, un peu plus fort dans ses paroles et dans ses... pas dans ses paroles, parce que je suis pas très bavard, mais dans mon travail, je préfère que ce soit vraiment très... un peu exagéré.
Quitte à forcer le trait.
Quitte à forcer le trait pour que le message passe, plutôt que d'être trop dans la nuance.
Celle qui fait trop dans la nuance dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, c'est la culture et son actualité nuance de gris manichéenne et mal fagotée. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 26 septembre ?
L'événement a l'avantage pour nous autres, historiens de la longue durée, c'est-à-dire de rassembler un faisceau d'informations, de faire apparaître ce qui est latent, ce qui est quotidien.
La belle histoire, l'historien médiéviste Georges Duby fait aujourd'hui son entrée dans la Pléiade. Disparu en 1996, il est le premier historien contemporain à rejoindre la prestigieuse collection Relié. Alliant style, passion, clarté, Duby est notamment l'auteur de textes grand public comme Le Dimanche de Bouvines et puis Le Temps des cathédrales, adapté à l'écran au début des années 80.
Ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides.
Des trucs pointus, là.
Et le Sphinx ? Et la tour des Pharos ? C'est quoi ? De la gnognotte ?
Rend la boîte Donald. Hier, les États-Unis ont restitué à l'Égypte un sarcophage exposé au Met depuis 2017. Doré à leur fin, long d'un mètre 80 et datant de 150 à 50 avant Jésus-Christ, le cercueil est celui de Nadjemank, prêtre du dieu à tête de bélier. Une enquête menée par les autorités américaines, égyptiennes, allemandes et françaises a permis de démontrer que le sarcophage avait été volé à l'Égypte en 2011, puis revendu par un marchand d'art français.
Parfois, il faut savoir garder ses convictions. Même si on est dans la minorité.
Mabankou de Maître, le roman vert cassé d'Alain Mabankou, publié au Seuil en 2005, fait partie de la liste des 100 meilleurs livres du 21e siècle, établie par le quotidien anglais The Guardian. On le trouve à la 99e place, Marjane Satrapi et Thomas Piketty sont aussi de la partie, mais l'auteur du prix Renaudot 2006 est le seul romancier de langue française à tirer son épingle du jeu. Allez Alain. Et puis Motown à combustion, ça fait du bien pour célébrer l'anniversaire de ses 60 printemps. Le mythique label américain Motown a mis en ligne un best-of de 60 morceaux inédits au groove diabolique. On y retrouve les artistes cultes qui ont fait la légende du label. Diana Ross et les Supremes, Stevie Wonder, Marvin Gaye. On y écoute aussi What's So Good About Goodbye, reprise de The Miracles par les Jackson 5. On sourit. Pourquoi ? Ah, parce que c'est bientôt vendredi. Anthony Vaccarello, directeur artistique de la Maison Saint-Laurent, invité de Boomerang ce matin. Le défilé de votre collection Prêt-à-porter printemps-été 2020 a eu lieu avant-hier face à la Tour Eiffel. Investir ce lieu très symbolique de la capitale, quel sens est-ce que ça avait pour vous?
Alors moi j'associe Saint-Laurent à... Enfin, c'est une maison qui est un peu dans l'inconscient collectif, elle fait un peu partie du patrimoine français.
Pour dire le moins.
Ouais. Et je trouve que du coup de l'associer à la Tour Eiffel qui est pour moi presque son égal, je trouve que ce sont deux univers qui vont plutôt bien ensemble.
Le défilé était en plein air. En plus des invités, des centaines de personnes se pressaient derrière les barrières de sécurité, trempées par des torrents de pluie, essayant de grappiller un peu du défilé, de toutes les célébrités aussi présentes ce soir-là. Qu'est-ce que vous vous dites, vous, quand vous voyez tous ces gens de l'autre côté? Qu'est-ce que ça vous fait?
J'y réalise jamais vraiment. Enfin, j'essaye de pas trop y penser parce que ça pourrait être quelque chose qui pourrait me bloquer. Je suis très fier et très ému de voir Catherine Deneuve, de voir Kate Moss, de voir tous ces gens que j'aime.
Qui sont des figures associées à la Maison Saint-Laurent depuis toujours.
Et fidèles, surtout. Je les considère vraiment comme une petite famille. Il y a jamais vraiment de... Il y a toujours une nouvelle personne qui rentre dans la famille, mais je change jamais mon premier rang pour être cool ou pour être... Pour avoir plus de photos, c'est toujours des gens proches de moi et proches de la maison. J'aime bien garder des liens avec les gens que j'invite.
C'est ça le style,
c'est ce que vous disiez. C'est ça le style.
C'est un véritable spectacle, en tout cas, que vous avez orchestré, avec des centaines de projecteurs au sol, la Tour Eiffel en arrière-plan, illuminée. Quel genre de spectacle est-ce que c'est, pour vous, un défilé, Anthony Vaccarello?
Pour moi, il faut que ça suscite une émotion. Il faut que les gens quittent le lieu avec, en ayant le cœur qui bat. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
C'est-à-dire, Je trouve un show plus important que la collection en elle-même. Parce qu'au final, c'est pas qu'on s'en fout d'une énième veste, une énième chemise, un énième caban. Je trouve que le plus important, c'est de vraiment mettre tout ça ensemble et de procurer une émotion.
C'est une performance artistique, en tant que telle. C'est une performance de l'éphémère aussi. Parce que ce défilé, il ne dure pas plus qu'une dizaine de minutes. Et les vêtements sont vus de manière si fugace que ça peut avoir quelque chose de frustrant pour celui qui les regarde. Est-ce que c'est frustrant aussi pour vous?
Mais j'aime bien ça. J'aime bien le côté éphémère, frustrant, le fait de, si on a raté le vêtement, je fais jamais de deuxième passage. C'est toujours là, il y a toujours un seul passage où la fille ne revient pas sur elle-même. Et j'aime bien ça, ce côté instantané. On a à voir le vêtement ou alors on passe à côté de l'événement.
Pourquoi un défilé dure si peu de temps?
Je pense que les gens s'ennuient au bout de 10 minutes, non?
Mais non.
On perd l'attention.
Mais non, on s'ennuie.
Déjà,
pas.
Je pense que je fais les plus longs de la Fashion Week.
C'est-à-dire
en fait, je fais toujours un final différent de la première partie. Je crois qu'il doit faire 8-10 minutes et les autres filles doivent faire 6-5-6 minutes.
Mais combien de temps vous passez sur un vêtement?
6 mois.
6 mois. Vous rendez compte,
6 mois pour 8 minutes. Oui, c'est vrai.
Elle a dit comme ça. C'est quand même fou. De cette collection printemps-été 2020, quelle est la pièce qui a requis le plus de temps de travail, le plus de difficultés?
Toutes les robes brodées en mousseline, inspirées de la collection russe de Saint-Laurent des années 70. Tous ces cachemires brodés, toutes les pièces floues ont pris beaucoup de temps.
Les pièces floues, le travail consistait en quoi?
Sur ces pièces, c'était... Enfin, je voulais pas reproduire les pièces de la collection russe de 72 de Yves Saint Laurent, mais je voulais vraiment m'inspirer des imprimés, des broderies d'époque, en les mettant sur des choses très légères. Donc c'est assez compliqué à faire.
Moi, j'ai été frappé par le travail de certaines matières et je pense à tous ces tissus en passementerie dorée. Comment et par qui est-ce que vous avez réalisé ce travail qui est un travail d'orfèvre?
C'est réalisé par des ateliers à Paris. Tout est fait en France. J'ai la chance de travailler avec des ateliers qui sont, je pense, les plus beaux du monde, j'ai envie de dire.
À Paris.
C'est vraiment un plaisir pendant 6 mois d'être avec eux et de concevoir ces pièces couture au final.
C'est ça, c'est intéressant ce que vous dites. En quoi travailler dans la mode pour vous, c'est aussi œuvrer à la préservation d'un savoir-faire?
C'est très très important. C'est-à-dire que ce sont des personnes en plus qui vivent pour ça. Pour ce qui est beau, pour ce qui est sensible, pour ce qui est exceptionnel. Et des fois, au moment des fittings, quand il faut...
Des essayages,
pour choisir les pièces qui défilent ou pas. J'ai toujours de la peine à... Parce qu'il y a beaucoup de robes, au final, qui arrivent avant de défiler. Il faut faire un choix. Je peux pas montrer tout. Et souvent, je vois dans les yeux des personnes qui ont fait les robes une certaine tristesse, des fois, d'annuler des robes. Donc, de là, de cette tristesse, est venue mon envie de montrer plus que d'autres maisons, peut-être, et de faire des choix un peu plus longs. C'est que je pouvais pas choisir... Tu pouvais pas tuer des robes.
D'autant que ce savoir-faire est en danger aussi, non?
Oui.
L'évolution de la mode fait qu'on ne se tourne pas vers lui aussi systématiquement
oui,
que naguère.
Voilà, c'est ça. Mais en fait, quand je fais ça, il n'y a pas de but vraiment commercial à ça. C'est vraiment pour la beauté de la robe, la beauté du geste, plutôt que de me dire je vais vendre cette robe. C'est plus pour montrer un savoir-faire qu'une démarche purement mercantile.
Quand est-ce que vous avez compris, Anthony Vaccarello, qu'après tout, être créateur de mode, c'était être un artisan?
Chez Saint-Laurent. C'est-à-dire qu'avant, je n'avais pas forcément cette perception, mais depuis que je suis chez Saint-Laurent, je vois vraiment que c'est un travail particulier et un travail que je ne vois pas ailleurs.
Au contact des artisans autour de vous.
Au contact des artisans, de l'atelier, oui.
C'est aussi être un artiste, être directeur artistique d'une grande maison.
Oui, j'ai toujours du mal à me considérer comme un artiste.
Après tout, la mode est dans les musées, je ne parle pas seulement des musées Saint-Laurent à travers le monde.
Oui, c'est vrai. Mais je préfère pas me considérer comme un artiste, mais plutôt comme un artisan.
Alors quel genre d'artisan est-ce que vous êtes?
Plutôt précis, plutôt obsessionnel.
C'est vrai?
Plutôt exigeant, mais toujours à l'écoute de ce qui n'est pas forcément possible ou réalisable pour trouver des solutions ensemble avec les personnes qui réalisent ces vêtements.
Ce goût pour le vêtement, il vient d'où? Vous avez fini par le savoir?
Mais je sais pas, parce que ma famille n'était pas du tout dans la mode. Je suis né en Belgique, vraiment dans une famille tout à fait normale. Et je sais pas, peut-être par... je regardais beaucoup la télé, et peut-être ces émissions même de Michel Drucker, tout ça.
Ah, c'est pas vrai?
Ouais, peut-être un peu les Champs-Élysées, les
j'espère que Michel Drucker nous écoute.
Je sais pas, ouais. tout ce côté un peu... Enfin, je fantasmais un peu sur le depuis Bruxelles, sur ce Paris des années 80 quand j'étais petit. Donc peut-être ça vient de là, je sais pas.
Et puis il y a eu un certain Gianni Versace quand même.
Ouais.
Quand est-ce que vous avez découvert son travail? Vous qui par la suite avez travaillé pour sa maison.
Ouais, mais c'était très étrange parce que c'était une personne étant d'origine italienne, qui était très importante en Italie. Et j'étais fan de Madonna aussi à l'époque. Elle était très dite à la maison et j'ai développé cette espèce de fantasme Gianni Versace. Et...
Attention, parce que ça a pu mener très très loin, Anthony Vaccarello.
Ouais,
les fantasmes de Gianni Versace.
C'est un peu dangereux. Et le fait d'avoir été contacté par Donatella à l'époque, où j'étais assez jeune, c'est très bizarre. Quand on pense vraiment à une maison en particulier et qu'on est approché par la sœur d'un quelqu'un que je considère vraiment comme un génie, c'est juste incroyable.
Vous vous souvenez de ce coup de fil?
Ouais.
Alors qu'est-ce qui s'est passé?
Elle était au Ritz et puis elle m'a appelé et je sais pas, j'ai retrouvé cette blonde allongée sur un divan à manger du raisin parce que c'était un peu too much, mais tellement too much qu'on est forcément fasciné par ça. Ouais.
Et quand vous avez vu ces créations, qu'est-ce que vous avez ressenti de la maison Versace?
Mais c'est incroyable parce que c'est des images qu'on a dans la tête et de les voir en vrai, c'est comme, enfin pour moi, c'est comme rencontrer une star, enfin c'est...
Le vêtement?
Ouais.
J'ai envie qu'on l'entende, moi. La voix de Gianni Versace, c'était en 1994.
J'ai découvert les collections de Karl très jeune, et ça m'a ouvert l'esprit. Ça m'a ouvert les yeux. Le style de Karl est lié à une certaine culture, à un certain savoir. Et je pense qu'un bon créateur se doit d'être un minimum cultivé. Le soir, je préfère rester chez moi et lire un livre plutôt que d'aller en boîte. Même s'il faut bien sortir aussi parfois pour voir un peu ce qui se passe. Un bon créateur doit se cultiver.
Gianni Versace, Anthony Vaccarello qui parle d'un homme qui lui aussi vous a inspiré, Karl Lagerfeld, un artiste qui vous a mis le pied à l'étrier en vous faisant entrer dans la maison Fendi. Quel homme est-ce que c'était pour vous, Karl?
Karl, c'est le pape de la mode. C'était aussi quelque chose d'un peu irréel parce que j'avais 22 ans. J'avais juste remporté le festival de hier et le fait que...
Qui est le festival qui récompense les très jeunes créateurs.
C'est ça. Mmh. C'est très bizarre parce qu'en fait, j'étais chez moi en Belgique et je décroche jamais le téléphone. Et c'était l'été, juste après avoir reçu mon diplôme au mois de juin. Et c'était la maison Fendi qui m'appelle, mais je sais pas d'où est mon téléphone, pour me demander de venir à Rome, pour rencontrer Karl, pour rejoindre la maison. Et bon, c'est pas une maison que j'aurais forcément contacté de moi-même parce que... Mais j'étais très fier. Très fier et très touché.
Et votre rencontre avec lui?
C'était incroyable. C'est comme Donatella, c'est des personnages tellement forts, physiquement forts, tellement cultivé, tellement au-delà de la norme que c'est très impressionnant.
Alors justement, c'est ce que disait Gianni Versace dans le son qu'on vient de passer. Vous êtes plutôt du genre à passer vos soirées avec un livre ou à passer la nuit en discothèque, Anthony Vaccarello?
Plutôt la soirée avec un livre.
Qu'est-ce qui vous a appris, en somme, Karl Lagerfeld?
Alors il m'a appris cette humilité. Parce qu'étant jeune, on pense que voilà, c'est la mode, c'est ce côté un peu superficiel. Et voilà, quand on est en haut de la pyramide comme il l'a été, c'est compliqué. Et en fait, pas du tout. C'était quelqu'un de très humain, très très ouvert, très à l'écoute, très surtout sa luminité.
Et sur l'art de penser, de concevoir, de fabriquer un vêtement.
Ouais, exactement. Et même d'être de faire tout de A à Z. Enfin, je me souviens, on attendait le fax de Karl Lagerfeld à l'époque, ses dessins.
C'est-à-dire qu'il vous envoyait le dessin?
Par fax, ouais. Donc en fait, on n'avait rien à faire jusqu'à ce qu'il envoie les fax. Et dès que le fax arrivait, c'était c'était la folie. Donc c'était des tonnes de dessins qui arrivaient. Tout se mettait en place, les ateliers étaient en ébullition. Oui, voilà, de tout dessiner, de tout diriger de A à Z, c'est quelque chose qui m'a fasciné.
Vous l'avez encore, cette excitation, aujourd'hui?
Oui, bah heureusement, ouais. Ouais.
On va reparler de tout ça juste après un petit Velvet Underground parce qu'on est jeudi. There She Goes Again, 1967, France Inter, Anthony Vaccarello, Saint-Laurent. Vous écoutez Boomerang, évidemment. There she goes again. She's out on the streets again. She's down on her knees, my friend. But you know she'll never ask you please again. Now take a look, there's no tears in her eyes. She won't take it from just any guy. What can you do? You see her walking on down the street. Look at all your friends that she's gonna meet. You better hit her.
Trapenard.
Parce qu'il a ce petit côté boy next door, vous savez, le type discret qui fait pas de vagues, qu'on remarque pas forcément au premier coup d'œil et qui d'un coup d'un seul vous surprend en sortant de son chapeau un lapin blanc. Il a le cheveu noir, le menton pointu, la barbiche douce, un regard à rien timide, une épaule charnue, une ligne, une attitude, un style, tout en jean, chemise bleue et jean noir. Le directeur artistique de la Maison Saint-Laurent, Anthony Vaccarello, invité de Boomerang pour son défilé, avant-hier notamment un défilé éblouissant qui s'est terminé en apothéose par l'apparition de Naomi Campbell dans un smoking noir à sequins. Pourquoi elle?
Parce que ça faisait très longtemps qu'elle n'était pas revenue chez Saint-Laurent, parce qu'elle m'avait dit que Saint-Laurent était la personne qui l'avait fait venir à Paris. Un de ses premiers défilés était pour Yves Saint-Laurent, parce que j'associais à cette fourrure verte de la collection Scandale, parce qu'elle est scandaleuse, parce qu'elle est Saint-Laurent.
C'est intéressant ce que vous dites, le fait que vous poursuivez aussi l'héritage d'Yves Saint-Laurent avec ses icônes. Il a été l'un des premiers à recruter des femmes noires pour ses défilés. Aujourd'hui, dans quelle mesure l'industrie de la mode se fait-elle le reflet de nos diversités pour vous?
Alors moi, Je l'ai toujours fait depuis toujours, depuis que j'avais ma marque et depuis que je suis Saint-Laurent, de façon naturelle. Parce qu'en fait, je pense jamais à une couleur de peau en faisant mes castings. Et je trouve qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu trop forcé maintenant dans ce côté quota, je trouve. En fait, je caste pas une peau, je caste une fille, je caste une femme. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire.
Qu'est-ce qui fait un grand mannequin pour vous ?
C'est un mannequin qui a une personnalité, c'est un mannequin qui, quand elle marche, on ne voit pas que le vêtement, c'est un mannequin qui emporte le vêtement.
Alors c'est un risque, Anthony Vaccarello, le risque qu'elle efface aussi le vêtement en concentrant toute l'attention sur elle, non ?
Mais c'est pour ça qu'en fait, en tuxedo, Naomi qui ferme le défilé... C'est
tuxedo, c'est smoking.
Pardon, ouais, smoking. Le smoking s'efface pour laisser de la place à la femme qui porte ce smoking.
Par qui est-ce que vous aimez voir porter vos vêtements ?
Par toutes les femmes, par mes amis, même par Catherine Deneuve,
Catherine Deneuve n'est pas toutes les femmes, Anthony Vaccarello.
C'est la femme, Catherine Deneuve.
Ah, c'est vrai?
Ah ouais, Catherine Deneuve, c'est...
Alors ça veut dire quoi, la femme?
C'est une femme libre, c'est une femme qui n'a pas peur de dire des choses qui ne sont pas forcément dans l'air du temps, c'est une femme qui assume tout, c'est une femme amoureuse, c'est une femme qui est prête à tout.
C'est pas une jeune fille de 20 ans non plus?
Non.
Ce qui est intéressant, c'est que cette femme porte sur elle, le mannequin, et avec elle, une histoire de la mode et de la photographie de mode, puisqu'elle a été iconisée, là je pense surtout à Naomi Campbell, par les plus grands photographes. Et quand je pense à elle, je pense à quelqu'un qui nous a quittés il y a quelques semaines seulement, je pense à lui, à Peter Lindbergh, dans notre émission, c'était il y a presque 5 ans, jour pour jour.
Pour moi, il n'y a pas de beauté sans vérité. Ou sans réalité, surtout mais sans vérité, non. Et ça va directement aussi, si on reste dans la photo, des portraits, des choses comme ça, ça arrive directement au sujet. Si on dit il y a pas de beauté sans vérité, ça exclut directement de tout ce qui s'est fait aujourd'hui, beaucoup, ça veut dire la retouche. Aujourd'hui, les gens, ils pensent, si on enlève tous les petits défauts, si on enlève tous les signes de la vie de quelqu'un, les rides, n'importe quoi, mais tout ce qui fait tous les marques que la vie a laissé dans un visage, et on dit ça, c'est beau. Ah, ça, c'est la faux. Beauté. Et c'est l'or, et c'est le contraire, non?
La beauté, pour vous, Anthony Vaccarello, c'est quoi?
Mais, c'est vrai ce qu'il dit. C'est la beauté, c'est quelque chose de qui doit rester authentique. C'est la marque du temps. La beauté, c'est la fragilité. La beauté, c'est
sont les rides aussi.
C'est les rides, ouais, bien sûr.
C'est ça qui nous dit Peter Lindbergh, en fait, auquel vous rendiez hommage récemment en publiant une photo de Kate Moss prise par Lindbergh en 1994.
Oui.
Pourquoi cette photo de Kate Moss d'ailleurs? Cette photo où on la voit vêtue d'une salopette dont la bretelle lui tombe légèrement de l'épaule.
Parce que c'était pour moi une des plus belles photos de Peter Lindbergh et je voulais lui rendre hommage parce que j'aime Kate Moss, parce que j'aime Peter Lindbergh. C'est ce côté sensible et ce côté presque comme une erreur. Je trouve qu'une photo réussie, c'est une photo qui n'est pas parfaite, une photo qui n'est pas parfaite.
C'est intéressant parce que c'est bel et bien par la photo, par l'image, Anthony Vaccarello, qu'est né votre intérêt pour la mode et pour le vêtement. Quand est-ce qu'elle est née cette passion pour les images?
Ben, elle est née assez tôt. Elle est née avec les photos d'Emmon Newton, qui est quelqu'un qui continue toujours à m'inspirer dans les photos que je fais avec Jürgen Teller. C'est toujours une référence.
C'est un noir et blanc.
Un noir et blanc. C'est une femme très forte. C'est une femme qui est pas parfaite.
C'est intéressant parce que ça va jusqu'à aujourd'hui où vous fabriquez des images. Je pense au film Luxa Eterne de Gaspard Noé, avec qui vous étiez à Cannes aux côtés de Charlotte Gainsbourg et de Béatrice Dalle. En quoi votre métier, c'est aussi encore aujourd'hui d'en produire, en fait, des images?
En fait, Saint-Laurent est vraiment une maison iconique qui a produit énormément d'images et j'ai vraiment envie de continuer cette envie qu'il avait de perpétuer cette maison par l'image. Et j'ai cette chance vraiment d'être soutenu, de pouvoir faire un peu ce que je veux et d'avoir les moyens de soutenir aussi des gens que j'aime. Et
de devenir ici producteur de cinéma.
Ouais, bon après c'est facile de produire avec l'argent des autres, mais c'est que j'étais un peu gêné quand ils m'ont présenté comme producteur de cinéma, mais
c'est-à-dire que c'est votre initiative.
C'est mon initiative, ouais. Mais je trouve ça très important et j'aime travailler avec ces cinéastes, ces photographes, même ces écrivains. Parce que j'ai fait quelque chose avec Brett Easton Ellis aussi, que j'ai aimé, et je me fais plaisir comme ça.
Aujourd'hui, quelles images vous font rêver?
Ce sont toujours des images d'Emmanuel Newton, ce sont toujours des vieux films de Ferrara, de Fassbinder, de Visconti. Je suis vraiment plus dans c'est pas très cool de dire ça, mais dans cette image de pas du passé, parce que je trouve que c'était très moderne à l'époque. Donc ça reste toujours moderne.
Et vous rêvez de quoi, en fin de compte?
Je sais pas si je rêve de liberté.
C'est possible de se sentir libre lorsqu'on est soumis, comme vous l'êtes, à cette cadence effrénée des collections, à ce rythme, Anthony Vaccarello?
Oui, parce que le truc, c'est de pas vraiment penser à cette cadence, pas vraiment penser à ces enjeux commerciaux. Et justement, encore cette liberté que j'ai me permet de pas y penser, de vraiment faire des choses qui me plaisent et des choses qui j'espère font rêver et donnent envie.
Et puis l'idée, c'est de rester discret aussi, de pas trop se faire voir.
Non, voilà, c'est le secret.
C'est pour ça que vous entendez si peu. Quelle chance, en tout cas, de nous avoir donné la possibilité de vous entendre ce matin.
Merci infiniment, Anthony.
Merci beaucoup. Vaccarello, d'être venu faire un tour dans cette émission, d'être venu nous parler d'héritage, d'image, de liberté, et de faire entendre aussi la vitalité de cette maison historique. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers et son Instant M, juste après ça.
Les sensations.